France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier sur les graves tensions au Moyen-Orient. Et puis pour le débat, nous mettrons nos casques de chantier et prendrons la direction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes il y a tout juste 5 ans. Un drame national qui a charrié avec lui un cortège de valeurs que la sociologue Nathalie Hennick analyse dans son dernier livre « Notre-Dame des valeurs, retour sur une émotion patrimoniale » publié aux Presses universitaires de France. Que dit cette émotion de notre rapport au sacré, à l'identité, voire à la laïcité? On posera ces questions à Nathalie Hennick dans le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Mégarov sur France Inter.
La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques. Donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, et puis retrouver un chemin de paix dans la région. C'est aussi pour cela que nous appelons à la prudence sur Rafah et que nous avons demandé une trêve conduisant au cessez-le-feu pour pouvoir procéder aux opérations humanitaires.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
On vient d'entendre Emmanuel Macron, c'était lundi dernier après les frappes de l'Iran sur Israël. La semaine diplomatique a été très intense. Est-ce que dans un tel conflit, la diplomatie, les mots, l'embrasement, la désescalade ont encore un sens, une force après ce qu'on vient de vivre, notamment en fin de semaine?
Oui, évidemment oui. Ça ne veut pas dire que je crois qu'il faut pas banaliser ce qui s'est passé.
Oui.
Au sens où ça fait maintenant 45 ans depuis la révolution islamique que le régime des Mollahs veut détruire Israël, que les tensions progressent et que les tensions progressent d'autant plus que le régime iranien se rapproche du seuil nucléaire, mais un pas supplémentaire a été franchi. Et ce qui me frappe, c'est que c'est à la fois une action inédite et que le paradoxe est que la réaction dans la rue israélienne est assez banalisée.
Oui, on a parlé de grand silence, d'assez peu de réactions en fait.
Alors, l'action est inédite, elle est même en réalité doublement inédite. Inédite du point de vue du côté israélien, puisqu'il y a régulièrement des opérations ciblées d'élimination des gardiens de la révolution. Il y en a eu, y compris récemment, avec la mort du général qui était en charge des actions au Liban, en Syrie et à Gaza. Mais c'est la première fois qu'il y a une action dans un consulat iranien. Inédite aussi du côté de l'Iran, parce que, un peu symétriquement, l'Iran, la République islamique, agissait par tiers interposés. Le Hamas,
les fameux proxys,
les Houthis. Mais c'est la première fois qu'il y a une opération militaire depuis le territoire iranien. Et donc le paradoxe, c'est que cette action inédite provoque une réception assez banalisée dans la rue israélienne. Autant le 7 octobre a été un traumatisme profond, autant le 13 avril prend sa place dans une continuité. Et je crois que c'est intéressant de s'interroger pourquoi. En fait, je pense que c'est parce que le procédé est plus important que l'origine. Ça veut dire quoi? Le 13 avril, l'origine, l'Iran, est la nouveauté. En revanche, le procédé, les bombardements, s'inscrit dans une continuité. À l'inverse, le 7 octobre, l'origine, le Hamas, il y a une habitude. En revanche, le procédé, l'incursion, le pogrom sur le territoire israélien, ça, c'est la nouveauté.
Et puis le résultat, le bilan.
Et évidemment.
Le bilan, c'est aussi évidemment très différent.
Alors, évidemment le bilan, alors je termine peut-être là-dessus, c'est évidemment aussi un cuisant échec opérationnel. On pourra discuter après de l'effet politique, mais c'est un cuisant échec opérationnel. On peut avoir un débat sur ce que la République islamique voulait vraiment faire. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ces 300 drones, missiles, et d'un autre côté, des cibles militaires, des drones qui mettent 6 heures pour atteindre le territoire israélien en passant par la Jordanie. Il y a cette interrogation, est-ce que c'était une riposte à minima? Et d'un autre côté, il y a sur ce sur quoi je crois qu'il ne peut pas y avoir de débat, c'est sur ce que la République islamique a vraiment fait, c'est-à-dire d'un point de vue opérationnel, rien. Et je termine par là. C'est frappant de voir l'efficacité des services secrets américains, une nouvelle fois après l'alerte sur l'invasion de l'Ukraine.
Absolument.
De voir l'efficacité de la coordination dont parlait le président de la République sur le territoire jordanien et de l'efficacité du dôme de fer israélien.
Et je précise que l'efficacité américaine, maintenant, on la mesure parce que désormais c'est public. C'est-à-dire que c'est les Américains qui publiquement disent l'Ukraine va être envahie dans quelques jours par la Russie. Iran va attaquer dans quelques heures ou dans quelques jours Israël. Peut-être ça, la nouveauté, c'est de le dire.
Ils disent quoi? Ils disent quand? Et ils le disent, ils disent quoi? Ils disent quand?
Il y a eu la réaction d'Israël. Ça reste encore assez trouble. Mais est-ce qu'on peut dire, Natacha, que d'une certaine manière, Israël sort vainqueur de cette semaine-là parce que sort peut-être de son isolement? On a entendu Emmanuel Macron dire qu'il est intervenu aux côtés d'Israël pour défendre Israël, alors qu'on sentait que la position israélienne était de plus en plus affaiblie et isolée depuis quelques semaines.
C'est tout le paradoxe et toute la complexité de la situation. C'est-à-dire que on est pour l'instant dans une semaine, on va voir ce que vont donner les suites, mais on a eu l'impression d'avoir deux régimes, Israël et l'Iran, qui pouvaient proclamer vis-à-vis de leur population que c'était une victoire, que ça se passait correctement, qu'il n'y avait rien de grave, et qui, en même temps, jouait une forme de retenue, tout en disant qu'il y aurait des ripostes, tout en alignant les rodomontades habituelles, mais tout de même une forme de retenue assez frappante. Le début de la séquence, c'est là aussi une autre nouveauté. C'est Israël, le 1er avril, frappant l'ambassade d'Iran à Damas. C'est-à-dire que c'est là...
Le consulat.
Le consulat. C'est là que commence ce début de déplacement d'un conflit qui, depuis le 7 octobre, se passait ailleurs et se passait par proxy interposé. Ça arrange, pour l'instant, les deux régimes. Et c'est ça qui me semble assez frappant. On a un régime iranien qui est extrêmement affaibli par une crise économique, par une remise en cause, surtout à travers les manifestations d'une jeunesse qui est d'un courage et d'une constance admirable depuis le début des mouvements Femmes, Vie, Liberté. On a donc un régime qui a besoin de se ressouder. Et on a en face un Benjamin Netanyahou qui a besoin de se maintenir au pouvoir, qui est confronté à une opération militaire à Gaza qui est dans une phase, semble-t-il, d'enlisement et dont, en tout cas, on ne voit pas bien quelle pourrait être la fin, c'est-à-dire à la fois l'objectif et l'arrêt, et qui donc a besoin de déplacer le problème avec, en effet, cette remarque, c'est que ça aboutit à recréer un semblant de consensus international, même si on a bien vu que les États-Unis restent extrêmement prudents, ont prévenu qu'ils ne soutiendraient pas de frappe notamment sur les infrastructures nucléaires iraniennes. La seule chose que l'on peut espérer face à une situation qui semble à la fois une situation de retenue et une situation quand même éminemment inflammable, c'est le fait que les pays arabes autour, qui se retrouvent pieds et poings liés, poussent largement en faveur d'un apaisement. On peut espérer que des pays comme la Turquie puissent jouer là aussi les pivots et une force d'apaisement et de diplomatie, puisque paradoxalement la position de la Turquie a été là aussi extrêmement retenue, extrêmement mesurée et se permettant en fait de pouvoir parler aux deux parties. Et on peut donc ne souhaiter qu'une chose, c'est que cet épisode-là soit un préalable à une entreprise véritablement diplomatique, puisque pour l'instant, on était face à des, on va dire, des absurdités diplomatiques telles que celle de Donald Trump déchirant l'accord nucléaire, des positions qui étaient des positions assez irresponsables. Cette fois-ci, tout le monde a intérêt au calme.
Gilles ?
Natacha disait les deux pays, à la fois Israël et la République islamique, pouvaient crier victoire. Du point de vue militaire, seul Israël pouvait le faire. Du point de vue politique... Là, les choses sont plus complexes, c'est ce par quoi je terminais. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran peut peut-être espérer avoir gagné auprès de la rue arabe. En revanche, il y a un isolement diplomatique qui est plus fort.
Et y compris avec d'autres pays arabes de la région.
Voilà, et c'est ce par quoi je voulais terminer, parce que au-delà de la Turquie, je trouve que et c'est pas le premier grand sujet, grand dossier de politique internationale sur lequel ça se passe. Je trouve que les pays du Golfe prennent maintenant une place de plus en plus stratégique. Et que, d'une certaine manière, il y a deux scénarios possibles pour les pays du Golfe. Soit rester des tiers d'influence, un peu comme le Qatar a commencé de le faire dans les négociations avec le Hamas à Gaza et avec Israël. Voilà, l'Arabie Saoudite peut tenter de faire ça. Après, on s'en souvient, il y a quelques mois, avoir signé un accord de détente avec l'Iran. L'autre scénario, c'est celui de ce que Elie Barnavi, dans Le Monde de cette semaine, a appelé une coalition diplomatique. Je le cite parce que la peur des Perses serait plus lourde que la haine des Juifs. Et pour ça, ça renvoie à la question qui a été évoquée, celle de la retenue du gouvernement israélien, à la fois par rapport à l'Iran et puis par rapport à Gaza.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, on revient en France avec l'annonce d'un salaire qui a fait grand bruit, celui de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, qui détient notamment Peugeot, Opel, Fiat ou Chrysler. Cette semaine, l'Assemblée Générale du groupe automobile a validé sa rémunération de plus de 36 millions d'euros pour l'année 2023, entraînant un débat politique et la grogne chez les salariés de Stellantis. Carlos Tavares a pris la parole droit dans ses bottes.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats d'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Faites une loi. Est-ce que Gilles, c'est poujadiste de s'en prendre à cette rémunération ? Gilles, Natacha, tiens. Gilles, me regardez, qui préférait répondre ?
Non, bon, on va répondre tous les deux, bien entendu. Mais ces 36,5 millions ont fait réagir jusqu'à Gabriel Attal, qui a été interrogé et qui a été obligé de dire à quel point il trouvait ça choquant.
Des sommes choquantes.
Des sommes choquantes. Il est vrai que la somme en elle-même, c'est 518 fois la moyenne, le salaire moyen du groupe, ça fait beaucoup. Et que c'est très intéressant, puisque ressurgit régulièrement cette proposition de limiter le salaire des dirigeants d'entreprise à 20 fois le salaire moyen du groupe. Il y a d'ailleurs une proposition portée notamment par Boris Vallaud qui irait dans ce sens. Et on peut comprendre tout à fait cette proposition 20 fois. Même 30 fois, ce serait quelque chose de raisonnable, qui correspondrait à la décence commune, comme l'a dit Boris Vallaud, puisqu'il reprend les termes de George Orwell. À ceci près qu'on peut se poser plusieurs questions. D'abord, la réponse de Carlos Tavares, consistant à dire « mais c'est un contrat, c'est une entreprise privée, etc. » Et de fait, vous pouvez aussi vous dire que justement, dans ce genre de contrat, si vous limitez la rémunération du dirigeant, où va l'argent ? Mais il ne va pas être donné aux salariés, et c'est bien le problème. Ce sera cela de moins que les actionnaires auront dans leurs dividendes. On pourrait donc se dire que peut-être la meilleure manière ne serait pas de limiter le salaire, mais de taxer le salaire correctement. On se souvient qu'après la crise des subprimes, Barack Obama, en 2009, avait imposé la prime des dirigeants de l'assureur AIG, il l'avait taxé à 90%.
Il faut dire qu'Aïgé avait été sauvé par l'État. Ce qui n'est pas le cas de Stellantis, quand même.
Non.
Donc, mais, avec un côté, on vous a donné beaucoup,
alors,
donc vous
dérangez. J'allais y venir. En effet, entre en ligne de compte les différentes aides que l'État, sous différentes formes, donne à ses entreprises. Et c'est là qu'il faut mettre en place un véritable donnant-donnant. J'ajoute un dernier point qui me semble important. À Marianne, nous avons publié l'an dernier, à l'occasion du salon du Made in France, nous avons créé un observatoire du patriotisme économique. Avec des chiffres, on a observé toutes les entreprises du CAC 40 en regardant l'évolution de leurs effectifs sur les 10 dernières années. En se posant la question, très bien, ces groupes sont des groupes mondialisés, mais ils ont une part de leur activité en France et une part ailleurs. Comment est-ce que ça évolue? Eh bien, Stellantis était dernier dans ce classement de 40 entreprises, avec un effectif en France qui, en 2022, donc, restait à 46 300 postes, donc une part de 17% seulement de ces effectifs totaux, avec une évolution depuis 2012 de moins 47 979 postes. Ça veut dire qu'en fait, Stellantis délocalise massivement. Et ce qui était très intéressant dans les chiffres qui ressortaient de cet observatoire, c'est que les mieux classés, ceux qui créaient de l'emploi en France, qui le respectaient, étaient des entreprises comme Hermès, même comme LVMH. C'est-à-dire qu'en fait, dans le luxe, on arrive à produire en France, à peu près. En revanche, automobile, Stellantis, équipementier automobile, etc., Michelin, etc., étaient tous très mal classés. Pourquoi ? Parce que le problème vient de la notion qu'on a de la concurrence. Et que donc, ce qui est choquant dans ce système économique, c'est quoi ? C'est un système de libre concurrence généralisée qui, évidemment, incite à délocaliser, à détruire des emplois, à aller se mettre ailleurs. Et d'ailleurs, Carlos Tavares, lors de différentes interviews, l'avait dit clairement. Moi, je ne suis pas responsable. Vous n'avez qu'à arrêter de me mettre en concurrence avec des gens qui peuvent fabriquer moins cher, avec des voitures chinoises. Et dans un sens, c'est d'un cynisme absolu, mais il n'a pas tort. Sauf que le problème derrière est en effet que ce système donne la totale liberté, évidemment, de ne payer que le dirigeant, mais pendant ce temps-là, de délocaliser allègrement.
Gilles, c'est régulièrement qu'on a ces débats. Chaque année, chaque année, on a les chiffres impressionnants et pourtant le débat n'avance pas. Est-ce que ça veut dire que il y a là quelque chose qui résiste de l'ordre du tabou ou parce que finalement on est dans un monde mondialisé et que Carlos Tavares dit qu'il est comme un joueur de foot et que donc la concurrence, elle lui profite pour le coup, y compris pour délocaliser et y compris pour son salaire.
Alors, je trouve dans ce dossier, il y a ce dont on a trop parlé, qui est la rémunération.
Oui.
Je vais y venir. Et ce dont on a trop peu parlé, ce par quoi je vais terminer. Sur la rémunération, vous avez raison, c'est chaque année, depuis 2016, c'est un marronnier, comme les comptes les bénéfices de Total. On a chaque année ce débat-là qui revient et on voit ce chiffre, 36,5, ça crée la fièvre. Bon. Et je crois que c'est ni populiste, ni le réflexe poujadiste, ni le réflexe d'une vieille gauche égalitariste de dire que c'est trop. C'est trop d'ailleurs, y compris par rapport aux autres grands patrons de l'automobile, où Carlos Tavares va être le patron de l'automobile le mieux payé du monde. Et la référence aux joueurs de foot...
Au talent,
on peut dire la carrière d'un footballeur est plus courte, on peut dire que Kylian Mbappé me fait plus rêver que Carlos Tavares, mais c'est trop aussi. On est dans une période, je trouve, d'excès par rapport à cette décence commune et par rapport à... Je crois que tout cela vient en réalité fragiliser le sentiment d'appartenance commune à une société. Ça vient alimenter l'idée d'une sécession des riches, pour reprendre la formule de Jérôme Fourquet. Vous vous souvenez, j'en avais parlé plusieurs fois ici de ce sondage, cette grande enquête que nous avions faite sur la société idéale. Et une des questions qu'on avait posées était, dans l'idéal, ça serait quoi l'écart de rémunération entre les plus riches et les plus pauvres? Et je regardais ceux qui avaient répondu 1 à 1000, puisque c'est de 1 à 1000 qu'il s'agit, ou pas de limite. Bon, c'est 14% des Français. Donc, évidemment, ça choque massivement. Et, d'une certaine manière, ce que ce débat vient montrer, c'est quelles sont là où se trouvent et où ne se trouvent pas les solutions. La retenue individuelle, on voit que, manifestement, il n'y a pas de limite. La transparence, on voit qu'elle est sans effet, puisque, en l'occurrence, il y a de la transparence. La démocratie actionnariale, elle est sans moyen, puisque même si les actionnaires avaient voté contre, ça n'aurait pas eu d'effet, donc il ne reste que la loi. Bon, je crois, une fois qu'on a dit ça, qu'on a trop parlé de ce sujet, et ce dont on a trop peu parlé, je crois que ce sont deux choses. La distribution des résultats. Il y a eu 18 milliards de bénéfices, près de 5 milliards d'euros de dividendes, et 3 milliards d'euros de rachats d'actions. Je crois que ça, on en a trop peu parlé, parce que c'est typiquement la dérive du capitalisme financier, où vous avez 3 milliards d'euros qui ne servent à rien, à part à augmenter la richesse des actionnaires. Et pire que ça, qui marque un alignement des intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires, puisque ils bénéficient aussi de cette augmentation du cours de l'action. Et la deuxième chose dont on a trop peu parlé, c'est la stratégie industrielle. Je ne parle pas des réussites passées, mais je parle des choix du futur et notamment de l'électrique. Et ce qu'a dit Carlos Tavares, pour le coup, est extrêmement intéressant. Parce que au moment où le marché de la voiture électrique croît moins vite qu'espéré, même s'il résiste plutôt mieux en France, au moment où Tesla, pour la première fois, annonce une réduction de 10% de ses effectifs, au moment où il y a un combat de l'extrême droite et de la droite au Parlement européen pour revenir sur le pacte vert et notamment sur ses dispositions, voir que Carlos Tavares, qui a été le plus sceptique sur le choix de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035, dit « On ne change plus les règles du jeu ». Je pense que ça, ça a été insuffisamment noté.
Le grand face-à-face, le duel.
Je veux que quand un jeune fait des dégâts, on aille chercher non pas seulement le parent dans le foyer duquel il réside, mais les deux parents. Parce que souvent, quand vous regardez ce qui s'est passé, notamment au moment des émeutes, vous avez des jeunes qui ont dégradé des équipements publics, par exemple. Ils vivent seuls avec leur mère qui est célibataire. Le père est parti, parfois depuis un certain temps, ne s'occupe plus de rien. Je souhaite que désormais, et c'est sur ça qu'on va travailler finement dans les semaines qui viennent, désormais, on puisse aller chercher également le père, même s'il est parti depuis très longtemps.
Jeudi soir, Gabriel Attal fêtait ses 100 premiers jours passés à Matignon, sur BFM TV, et il a beaucoup insisté sur la question de l'autorité, Gilles, cette question de la responsabilisation des parents, et du père en particulier. Comment vous la comprenez ?
Je trouve, quand on écoute Gabriel Attal avant-hier, on a presque les mots de la déclaration de politique générale et de la formule qui avait marqué cette déclaration de politique générale. Donc, il y a une continuité de Gabriel Attal Premier ministre, y compris, il y a une continuité de Gabriel Attal tout court, puisque quand il était ministre de l'Éducation, c'est sur cette question de l'autorité, et de l'autorité parentale, et de l'autorité des deux parents, qu'il avait inscrit sa marque. Pour les 100 jours, Gabriel...
En même temps, c'est que 100 jours, hein, c'est pas 10 ans, c'est pas non plus... c'est normal que 100 jours après, ils disent la même chose, non ?
Ah, mais c'était pas du... C'est absolument... Ah oui. Non, c'est pas du tout un reproche.
Oui,
au contraire, je montrais la cohérence, pas du tout.
Oui.
Sur les 100 jours, Gabriel Attal a été nommé tôt. Il a été nommé tôt, non pas dans sa carrière, même si il est né en 1989, comme il se plaît à le répéter régulièrement, mais il a été nommé tôt dans le quinquennat. Au sens où il y aurait eu un calendrier logique qui est que Emmanuel Macron garde Elisabeth Borne au moins jusqu'aux européennes, voire jusqu'aux Jeux Olympiques, pour changer de Premier ministre à la rentrée, pour ouvrir une nouvelle séquence. Il a choisi, comme souvent, de bousculer le calendrier et de précipiter la nomination d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Gabriel Attal, pour essayer de sauver la liste Renaissance et, ce faisant, d'éviter d'accentuer son affaiblissement et le basculement du quinquennat vers la prochaine élection présidentielle. Ce qui me frappe, c'est qu'en 3 mois, il y a un cumul de difficultés pour Gabriel Attal, au-delà de la crise agricole inaugurale. Les élections, la campagne européenne avec une tête de liste qui peine, l'indiscipline du gouvernement où, comme souvent après la nomination d'un nouveau Premier ministre, les ministres testent l'autorité du Premier ministre, le contexte économique avec la recherche d'économie, la paralysie parlementaire avec, on l'a vu sur la programmation pluriannuelle de l'énergie ou sur le budget rectificatif, la volonté de contourner le Parlement, et on voit que Tout ça crée des risques à la fois de déroute électorale pour la campagne, de cacophonie gouvernementale avec l'indiscipline, d'inquiétude sociale avec la recherche d'économie, d'immobilisme politique avec la paralysie parlementaire, et que tout ça vient fragiliser Gabriel Attal, et qu'il est aujourd'hui dans une espèce d'entre-deux. Il conserve des traits d'image positifs, il est potentiellement dans la course pour 2027, mais on sent que les choses commencent à s'éroder et qu'il ne réussit pas et qu'il n'essaye pas de créer une autonomie par rapport au président de la République.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être un petit paradoxe à défendre l'autorité partout et à avoir du mal à l'incarner chez soi ?
Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de paradoxes de ce genre. Ce qui me frappe, c'est que, Gilles l'a dit, Gabriel Attal poursuit un sillon. Il a compris que dans une période où, en effet, il est confronté à des difficultés d'ordre divers, la ligne qui consiste à défendre l'autorité était la seule sur laquelle il pouvait se maintenir parce qu'elle parle à son électorat et parce qu'elle trouve un écho dans l'inquiétude des Français, en particulier avec l'accumulation qui est extrêmement frappante ces derniers temps de faits divers violents, extrêmement violents. Et on comprend bien que ça le met dans une position complexe, puisque ça fait partie, ça, évidemment, de sa posture dès le début, et en même temps, ça le confronte à une forme d'impuissance. Alors, les mesures qu'il annonce...
Oui, celle qu'on a entendue là,
voilà,
aller chercher le père, même s'il est parti depuis longtemps.
Oui, et puis, il y a diverses mesures sur les questions d'éducation, donc maintenir les jeunes dans le collège
de 8h à 18h.
J'ai été frappée, j'ai observé les réactions, notamment des syndicats d'enseignants, et je suis toujours frappée par le fait que des gens qui sont des professeurs des syndicats d'enseignants ont l'air de considérer que ça relève du fascisme de maintenir des jeunes dans le collège. Je crois qu'on peut reprocher à Gabriel Attal sa communication, l'excès de communication, l'excès de posture. Mais sur le fond, venir dire, comme certains l'ont dit, qu'il n'y avait dans ses propos que de la répression et pas de prévention, je pense que c'est une absurdité. Car mettre en place à la fois des sanctions, une présence éducative, ce n'est pas de la répression, c'est justement de la prévention. Je crois au pouvoir de l'éducation et de la punition très précoce pour permettre l'éducation. En revanche, comme d'habitude, on voit surgir l'artifice de commissions, consultations et autres qui vont encore permettre de gagner du temps parce qu'il ne faudrait pas que ça arrive avant les européennes. On voit encore une fois l'absence totale de moyens précis pour mettre cela en œuvre. Or, tout ce que dit Gabriel Attal sur les places en internat, sur tout ce qu'on veut, je peux être d'accord, mais sans des moyens pour mettre en place cette politique, ça reste une pure opération de communication.
Gilles, oui pour l'esprit, moins pour les moyens ou pour les méthodes. Ce que vient de dire Natacha, comment vous l'entendez-vous ?
D'abord, moi je ne reproche pas à Gabriel Attal sa forte présence politique, médiatique, parlementaire. Je pense qu'il tranche de ce point de vue-là par rapport à Elisabeth Borne, mais que il remplit une des dimensions de ce qu'est aujourd'hui la fonction de Premier ministre. En revanche, sur le fond, je trouve que la posture d'autorité est un peu courte et qu'il y a d'autres terrains qu'il n'occupe pas ou qu'il occupe mal. Je pense que sur la question sociale, de manière récurrente, il est sur des positions qui sont très proches de la droite classique, alors qu'il pourrait être sur un champ un peu plus vaste.
Un champ un peu plus vaste. Allez, on va prendre nous un peu de champ et un peu de hauteur même, puisqu'on va monter au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Allez, place au débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face. Le débat.
Bonjour Nathalie Hennick.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue au CNRS et vous dirigez Notre-Dame des Valeurs, retour sur une émotion patrimoniale aux presses universitaires de France. Un livre publié à l'occasion des 5 ans du terrible incendie qui a en partie détruit la cathédrale et a suscité des émotions très fortes qui, selon vous, révèlent des valeurs. Alors, quelles émotions, pour quelles valeurs? On va en parler tous les quatre avec Gilles et Natacha. Mais je vous propose, pour entrer dans le vif du sujet, de se rendre dans les rues de Paris, non loin de la cathédrale, en travaux. C'était cette semaine sur France Inter.
J'étais en France lorsqu'il y a eu l'incendie en 2019. C'était tout un choc, n'est-ce pas? Puis là, c'est mon premier retour. Alors, on voulait venir voir l'avancement des travaux, qu'on suit beaucoup de chez nous, de toute façon.
On était devant la télé, on a regardé ça. C'est pour ça, si, ça nous touche. Ouais.
Puis de se dire qu'effectivement, la flèche était tombée, que tout allait être abîmé. Je suis toujours venue ici quand j'étais gamine. Puis voilà, maintenant, 5 ans après, il fallait qu'on vienne, ouais. On pensait pas qu'en 5 ans, ce serait fait. Je pense que ça va pas tarder à être terminé.
Au mois de décembre, vous serez là pour l'ouverture.
Alors peut-être pas au mois de décembre, parce qu'il va y avoir énormément de monde, mais début janvier, je dis pas.
J'ai vu la sociologue écouter avec beaucoup d'attention les mots qu'on a entendus. On a entendu « ça nous a choqués » avec un bel accent québécois, « ça nous a touchés », la référence à l'enfance. 5 ans plus tard, l'émotion, on l'a entendu, est encore très forte. Vous travaillez, vous, sur l'émotion d'il y a 5 ans, mais ça raconte quoi, cette inscription dans la durée de l'émotion de cet événement?
Bah, ça raconte que c'est, comme l'aurait dit Pierre Nora, un événement monstre, hein, c'est-à-dire un événement parmi les événements. Donc déjà, ce qui peut se comprendre par la nature même de Notre-Dame, sa monumentalité, sa célébrité, sa double nature, on y reviendra peut-être, de lieu de culte
bien
et
sûr
de lieu de culture. Et puis par le caractère extrêmement spectaculaire, relayé par les médias et les réseaux sociaux. Enfin, on a tous les ingrédients pour un événement monstre et qui du coup déclenche une émotion monstre, puisque l'émotion dans la sociologie des valeurs que je pratique, c'est le révélateur d'une valeur ou de plusieurs valeurs qui ont été touchées. Alors ça peut être touché positivement, hein, mais aussi, là en l'occurrence, touché négativement. Et ce sont toutes ces valeurs affectées, impactées par l'incendie, que nous avons essayé de mettre en évidence avec une petite équipe que j'ai constituée, pluridisciplinaire. Hein, il y a jury, philosophe, anthropologue, historien, sociologue, et on est allé de découverte en découverte.
Une question d'égo-sociologie peut-être. Nathalie Yannick, il y a 5 ans, le 15 avril 2019, vous êtes devant la télé peut-être, ou en tout cas vous écoutez à la radio, comment vous apprenez et comment vous réagissez? Quelles sont vos émotions? Vous êtes traversée par quelles émotions, vous, la sociologue qui travaillait sur les émotions?
Oui, là vous mettez le doigt sur la définition même de l'événement, c'est quelque chose qui fait date, c'est-à-dire qu'on se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là, à ce moment-là. Ben, moi j'étais tout simplement au téléphone, en train d'écouter mon compagnon, qui lui était à vélo, passé sur l'île devant Notre-Dame pour rentrer à la maison, et qui a assisté en direct à l'effondrement de la flèche et qui m'a raconté. Donc j'ai eu le son, voilà, le récit en direct, et j'étais bouleversée comme beaucoup de monde. Je me suis précipitée pour donner de l'argent à la Fondation de France pour la reconstruction. Enfin, j'ai fait ce qu'on... j'en ai pas dormi de la nuit. Enfin, voilà, j'étais moi aussi extrêmement touchée, alors que j'ai la chance de n'avoir aucune religion, donc je n'avais absolument pas de lien quelconque avec la dimension religieuse de Notre-Dame, et ça fait partie des choses extrêmement intéressantes que nous avons découvertes, c'est donc cette double nature, sur laquelle il y a eu beaucoup de controverses, hein. Est-ce que Notre-Dame est un lieu de culte qui relève des valeurs qu'on peut appeler des valeurs mystiques, de transcendance, de spiritualité? Ou bien est-ce qu'elle doit être considérée comme un lieu de culture avec des valeurs de beauté, d'authenticité, d'ancienneté, de rareté, etc.
Je vais donner la parole à Gilles qui a envie de la prendre, je le vois, mais vous avez dit « j'ai donné de l'argent ». Est-ce que vouloir agir, ça participe de notre sentiment face à un événement pareil? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'entendre ou d'écouter ou de pleurer. En tout cas, vous avez besoin d'agir, ça raconte quoi, ça?
Oui, parce que l'émotion, ça veut dire qu'on est ému, qu'on est touché, et la réaction à l'émotion, c'est très souvent d'essayer de surmonter le traumatisme par l'action, tout simplement. Alors, l'action, ça peut être simplement d'appeler ses proches en disant « t'as vu ce qui se passe ?» Et puis, ça peut être aussi le désir de réparer à sa très modeste mesure, puisque le soir même, on va y revenir, il y a eu des propositions de réparation beaucoup plus monumentales que la petite somme que j'ai pu donner. Et donc, ça fait partie de la gestion de l'émotion.
Gilles.
D'abord, c'est pas un livre sur Notre-Dame, son histoire et sa reconstruction.
Non,
c'est
un livre de sociologie.
Important de
pas
le.
Que, d'ailleurs.
C'est un livre collectif, vous l'avez dit, d'analyse des réactions, des émotions que l'incendie de Notre-Dame et sa reconstruction ont provoquées. Et vous analysez de manière séparée ce que les hommes politiques, ce que les prélats, ce que les selfies des citoyens, des objets dont on se souvient tous, la question des dons que vous venez d'évoquer, les matériaux, la polémique sur les matériaux de la reconstruction, sur la restauration de la flèche. Bon. Et c'est ça qui est analysé et je crois vraiment que c'est très intéressant. Vous dites dans votre conclusion que Notre-Dame est comme un symbole des émotions patrimoniales et que ça révèle des valeurs. Hein, c'est le... Et notamment ce que vous appelez des valeurs principes. Et on évoquait tout à l'heure, je ne sais pas si vous écoutiez avec Natacha lorsqu'on parlait de Carlos Tavares, la question de la décence. Et je trouve qu'il y a au moins deux sujets sur lesquels la question de la décence est revenue dans le débat de Notre-Dame, sur la question des dons, notamment... quand il y a eu une polémique sur les dons très importants qui ont été faits et rendus publics d'un certain nombre d'entreprises ou de grands milliardaires français, mais aussi sur la question des selfies, lorsqu'il y a eu des responsables politiques ou même des anonymes qui faisaient un selfie devant Notre-Dame. Est-ce que cette question de la décence, ça fait partie de ces valeurs principes
Oui, c'est même très important parce Nathalie. Que le sentiment d'indécence vient très souvent de l'antinomie, de la contradiction entre deux valeurs considérées comme importantes. Alors, dans le cas des dons, on a eu des controverses le soir même de la déclaration des sommes faramineuses, comme dans une espèce de potlatch, où chacun voulait donner plus que l'autre. Donc, des controverses sur la question de savoir s'il fallait vraiment le donner à Notre-Dame ou à l'ensemble du patrimoine, ou plutôt aux misérables. Donc, il y a eu un jeu de mots sur Notre-Dame et les misérables. Et puis, surtout, sur la question de la défiscalisation, qui fait qu'une bonne partie de ces dons est en fait payée par les impôts des citoyens. Donc là, on a eu tout de suite, c'est vu greffer, vieille controverse droite-gauche sur l'utilisation de l'argent. Et là, l'indécence, c'était l'accusation d'indécence venait du fait que ce qui était présenté par les donateurs comme un geste de charité, comme un geste vertueux, relevant d'une valeur éthique, pouvait être interprété comme un geste relevant de la volonté de se faire mousser, de se donner une visibilité de l'importance, etc. Donc relevant du registre que j'appelle réputationnel, de l'augmentation de la réputation. Donc là déjà, on a une antinomie entre deux registres de valeurs et c'est ça qui provoque le sentiment d'indécence. Et pour ce qui est des selfies, qu'a étudié donc mon doctorant Vincent Timsit, qui fait une très belle thèse sur les selfies devant la Joconde et autres hauts lieux patrimoniaux.
Excellent sujet.
Excellent sujet, bien sûr. Et donc là, on voit comment le fait que des gens aient pu faire et diffuser le soir même des selfies d'eux-mêmes devant Notre-Dame en feu, avec donc eux-mêmes en gros plan et Notre-Dame en arrière-plan, et au premier rang desquels Jacques Lang sur le balcon de l'Institut du monde arabe.
Vous y voyez d'ailleurs un sens, j'aimerais qu'on y revienne après, mais allez-y.
On y reviendra.
Donc, c'est un des chapitres les plus... Enfin, c'est un chapitre drôle. Dans
très,
le
drôle, oui, très drôle, oui. Il y a des choses extrêmement drôles. Et donc ça a suscité des réactions soit de moquerie ironique, soit de sentiments d'indignation et d'outrage. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce que j'appelle une faute axiologique. Axiologique, ça veut dire relatif aux valeurs, c'est-à-dire un manque de connaissance, de compréhension et de manipulation adéquate des échelles de valeur, c'est-à-dire que un anonyme, un quidam, se met non seulement sur le même plan, mais même en plus gros par rapport à ce qui est censé être quand même beaucoup plus grand que lui, à savoir Notre-Dame et l'événement de l'incendie, et utilise cet événement tragique pour, là encore, se faire mousser, se faire connaître, etc. Bon. Et donc, là, il y a aussi un sentiment d'indécence lié à ce décalage dans les échelles de valeur.
Et ça révèle quoi ?
Ça révèle que nous partageons tous la même grammaire axiologique, comme je dis, c'est-à-dire la même grammaire des systèmes de valeurs que nous mettons en œuvre. Et la seule chose, c'est qu'évidemment, nous ne les mettons pas en œuvre forcément de la même façon, sur les mêmes objets, dans les mêmes contextes, d'où les controverses. Mais nous partageons, nous comprenons tous pourquoi des gens réagissent négativement aux selfies, même si nous-mêmes, forcément, nous serions peut-être pas forcément aussi choqués, mais on comprend. Et pourquoi est-ce qu'on comprend ? différent. Parce que nous sommes dans un monde commun du point de vue des valeurs, contrairement à ce que sous-entendent certains de mes collègues sociologues qui ne cessent d'accentuer la notion de division où on serait tous dans des oppositions et dans des mondes n'ayant rien à voir les uns avec les autres.
De domination.
Et de domination. Et moi, je pratique une sociologie qui ne s'intéresse pas beaucoup à la question de la domination, contrairement à d'autres de mes collègues.
Contrairement à votre directeur de thèse,
Mon ex,
Pierre Bourdieu.
Il y a très longtemps, il y a 50 ans.
Je précise quand même.
Voilà. Bon. Et donc, je me suis beaucoup éloignée de cette sociologie. Oui. Et pour pouvoir faire une sociologie des valeurs, il faut accepter de faire une sociologie de ce que nous avons en commun et pas seulement de ce en quoi nous différons.
Natacha.
Oui, je tiens, dans le prolongement de tout ce que vous venez de dire et de ce qu'avait et de la présentation que Gilles a faite du livre, c'est en effet un livre de sociologie comme on en lit assez peu en ce moment, puisque c'est un livre de sociologie qui met à distance, vous venez de le montrer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sociologie comme sport de combat, on est dans une observation qui tente d'atteindre une forme de neutralité dans le regard qui est porté. Et c'est cela qui est passionnant, parce que ça fait émerger en effet des choses. Mmh. Les deux thèmes sur lesquels Gilles a commencé cette discussion, à savoir la question du mécénat et la question du selfie, montrent le rapport entre l'individuel et le collectif. Et c'est ce qui ressort, à mon avis, très souvent de ce livre, la façon dont me semble-t-il, nous nous construisons en tant que société avec des valeurs collectives, en même temps avec une lecture qui est liée à notre propre positionnement individuel, et que c'est cette articulation qui joue. Alors, il y a un autre élément extrêmement intéressant dans le livre, c'est, vous l'avez évoqué au début, la réaction des prélats. Et le fait que ce que vous soulignez, c'est à quel point ce sont finalement les évêques, les membres de l'Église catholique qui ont observé la plus grande distance vis-à-vis de Notre-Dame en rappelant que ce n'était que un tas de pierres.
Exactement.
Et il y a là, je pense, quelque chose que j'aimerais vous voir expliciter, parce que j'ai l'impression que ça nous raconte ce qu'est la spiritualité, la place qu'occupe le catholicisme en France, la difficulté pour le catholicisme de se positionner réellement, et dans une société qui a fait de la chrétienté un patrimoine et non plus tout à fait une réalité.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des multiples surprises que nous avons eues, parce que, comme vous l'avez très bien dit, la sociologie que je pratique, qui vise à la neutralité, nous permet de découvrir des choses et non pas seulement de répéter ce qu'on sait déjà. Bon, voilà, ou de soi-disant démontrer ce que tout le monde sait. Bon, et donc on découvre des choses, et notamment ce chapitre qui a été écrit par une historienne, Nicole Dionnet, sur les réactions des prélats montre, et ça a été vraiment une grande surprise, que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les prélats ont été les moins touchés, les moins bouleversés, en tout cas dans leur réaction, par l'incendie. Ils ont très vite mis ça à distance, en gros en disant que une cathédrale, c'est avant tout un lieu de culte relevant de la spiritualité et non pas un lieu patrimonial, et donc on ne peut pas pleurer un tas de pierres. Bon, et l'important, c'est la continuité du culte. C'est donc ce qu'ils ont répété, avec une nuance d'indignation, non pas contre l'incendie, mais contre des réactions qui, selon eux, négligeaient cette dimension culturelle au profit d'une dimension purement culturelle. En revanche, le soir même, on voyait des croyants, des fidèles, agenouillés autour de Notre-Dame en pleurs et en prières, et on voit là, me semble-t-il, cette distinction formidable, très intéressante, entre, d'une part, la hiérarchie catholique et, d'autre part, les pratiques de base des fidèles. Une différence que l'historien des religions Peter Brown avait formidablement mise en évidence dans ses travaux sur le culte des saints dans l'Antiquité tardive, et où il montrait que le culte des saints était une pratique totalement populaire, mais très fortement mise à distance, voire non pas interdite, mais en tout cas limitée par la hiérarchie catholique. Et on voit se rejouer en 2019 cette même tension entre une conception, disons, théologique noble du rapport au sacré, et puis une conception populaire que l'on a vue le soir de l'incendie.
Est-ce que ça renvoie aux histoires lointaine de l'iconoclasme, du rapport
tout
à l'image,
fait,
de la rapport, du rapport
on
à la représentation.
Exactement dans la querelle de l'iconoclasme. On est là-dedans. De même que, et ça aussi on l'a découvert, on est avec les réactions à l'incendie dans une revitalisation, si on peut dire, de la querelle de, autour de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Est-ce que Notre-Dame concerne l'ensemble des citoyens, ou est-ce qu'elle ne concerne que les catholiques, qui doit avoir la main sur ce qui s'y passe, qui doit décider est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est le clergé. Et là, on revit, là encore, plus d'un siècle après, la même tension.
Gilles. Précisément sur ce débat, sur la place du religieux, ce qui frappe quand on lit à la fois le chapitre sur les responsables politiques, sur les prélats, c'est notamment sur les responsables politiques, il y a beaucoup de consensus. Très vite, très tôt, les mêmes mots sur l'émotion, les mêmes l'idée que c'est un symbole, la dimension patrimoniale, l'appartenance à la nation, voire à l'humanité. Et puis il y a un sujet sur lequel il y a, disons, pas nécessairement un dissensus, mais en tout cas des différences, qui est sur la dimension religieuse. Est-ce que c'est le lieu pour les catholiques ou est-ce que c'est un lieu pour tous? Comment ça, ce débat-là s'exprime-t-il? Et est-ce que, je sollicite le livre et notamment le petit intermède que vous avez rédigé sur Jean-Luc Mélenchon, en disant que de manière inattendue pour moi, qui suis souvent critique vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, il ne se place pas, lui, dans une position assez de synthèse. Il parle de l'alliance de la foi et de la raison. Il fait de Notre-Dame le symbole de l'union des contraires.
Oui, c'est un texte très intéressant. Donc, les chapitres sont entrecoupés d'intermèdes que j'ai moi-même rédigés et qui sont des commentaires de prise de position, de textes, etc., qui ont circulé dans l'espace public. Et donc, notamment, cette déclaration de Mélenchon qui fait cette espèce de synthèse étonnante en disant, en gros, un citoyen laïque a parfaitement le droit d'être ému par l'incendie parce que Notre-Dame appartient à la fois aux catholiques et à l'ensemble des citoyens. En gros, il mixe le registre, disons, mystique de la foi avec le registre civique du sentiment d'appartenance à une entité plus générale qui est la nation, voire l'humanité, puisque Notre-Dame est un monument de l'humanité. Et puis, tous les registres de valeurs qui vont avec la dimension patrimoniale, l'authenticité, la rareté, l'ancienneté, la beauté, etc. Bon. Et donc, d'une certaine façon, il veut autoriser tout le monde, tout un chacun, à se sentir légitime à être ému, ce qui est tout à fait intéressant. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les réactions des politiques qui sont en gros dans l'unanimité. Et ça a été donc le travail, le premier chapitre écrit par l'anthropologue Franck Beuvier, qui a analysé tout ce qui s'est publié sur lemonde.fr dans les 24 heures après le déclenchement de l'incendie. Et on voit, c'est très intéressant, comment la première réaction, c'est une réaction de rappel unanime de l'importance de Notre-Dame, du fait que c'est un bien. Et on est là dans une certaine définition de la valeur, qui est une valeur, c'est un objet doté de valeur, et qui est considéré donc comme un bien. Donc les deux sens du mot valeur, auxquels s'ajoute ce que vous avez évoqué, les valeurs principes, c'est-à-dire les principes au nom desquels nous accordons cette valeur qui fait d'un bien une valeur. Donc dans les premières heures, on est que dans les deux premiers sens du mot valeur. Il est évident que Notre-Dame a de la valeur, et il est évident qu'elle est une valeur, qu'elle est un bien, et que nous sommes autorisés, nous sommes même incités à déplorer tous ensemble, dans un sentiment de forte communauté, ce qui fait de la valeur. Et c'est seulement autour des controverses que vont apparaître des dissensions soutenues par la différence des valeurs-principes qui vont être amenées pour commenter ce qui se passe.
Mais il y a des controverses.
Il y a des controverses.
Notamment architecturales, assez
alors,
vite.
Alors, très vite, les controverses. Donc, j'ai évoqué la controverse sur le don qui éclate le soir même. Mais ensuite, on a une controverse entre experts absolument passionnante pour savoir si, dans quel matériau doit être reconstruite la charpente. Et là, c'est Quentin Mazel, qui est un jeune sociologue, qui a fait le chapitre. Et est-ce que ça doit être du bois ou est-ce que ça doit être du béton ou de l'acier? Eh bien, on découvre que derrière ces querelles absolument techniques et d'experts, il y a des valeurs. Ce sont des valeurs qui sont impactées. Est-ce qu'il faut faut privilégier la nouveauté ou l'ancienneté? Est-ce qu'il faut privilégier la beauté ou la solidité? Enfin, il y a toute une série de valeurs qui vont être mobilisées par les experts pour prendre la décision. Même chose avec la reconstruction de la flèche qu'a étudié Tsolak Paloyan. Et c'est là aussi des valeurs sous-jacentes aux prises de position qui sont mises en évidence, et entre les reconstructeurs qui vont militer pour une reconstruction, les renonciateurs qui ne veulent surtout pas qu'on reconstruise la flèche parce que eux en tiennent à une conception de l'authenticité qui est là le retour au premier état initial, et il n'y avait pas de flèche dans l'état initial, et puis les restaurateurs qui eux sont fidèles à la charte de Venise, c'est-à-dire disent il faut suivre la loi sur le patrimoine qui consiste à reconstruire dans le dernier état connu, et donc on refait la flèche de Viollet-le-Duc, et c'est finalement ce qui s'est passé, ce qui était logique parce que c'est la loi, hein. Et donc là c'est la loi qui l'emporte.
1964, alors, c'est ça
1962, la charte 62. De Venise.
Natacha.
Justement, vous parlez de loi, il y a aussi un autre petit chapitre qui peut sembler un peu anecdotique, mais que j'ai trouvé très intéressant, sur les conflits autour des normes juridiques, c'est-à-dire au sein même de toutes les entités qui reconstruisent Notre-Dame, vous avez des artisans qui sont soumis à des normes extrêmement strictes et qui protestent contre le fait que ces normes leur font perdre du temps. Et on voit là aussi, j'aimerais que vous explicitiez ça, parce que c'est une, là aussi la question de savoir si on est face à un événement exceptionnel qui mériterait de faire sortir des normes juridiques habituelles ou pas.
Oui, alors ça c'est un intermède que j'ai écrit à partir de l'article d'une journaliste qui raconte, elle est allée sur le chantier de reconstruction, et elle raconte les tensions terribles entre, d'un côté, l'inspectrice du travail qui veut absolument faire respecter à la lettre les normes de protection des artisans contre le plomb, contre le risque de contamination au plomb, et de l'autre, ces artisans qui sont censés être soutenus par cette inspectrice et qui se révoltent parce qu'elle leur impose des contraintes totalement insupportable. Il faut prendre une douche trois fois par jour, et ils se retrouvent à poil tous ensemble, ils n'ont pas l'habitude, etc. Bon, et donc, il y en a un qui dit, nous on pensait être sur la reconstruction d'un grand chantier, et on se retrouve à Aqua Boulevard, bon, et à patauger en claquettes, bon. Et donc, c'est absolument très très drôle de voir comment des normes juridiques peuvent être contestées par ceux-là même qu'elles sont censées protéger. Et à propos des normes juridiques, je suis très contente qu'on ait eu aussi un chapitre écrit par un jeune juriste, Jacques Delaporte, sur la loi de juillet 2019, donc une loi d'exception consacrée entièrement bien à ce qu'il faut faire de Notre-Dame du point de vue des dons, du point de vue de la reconstruction, et il a analysé de façon très fine les différents débats qui ont eu lieu à l'Assemblée.
Nathalie Ney, qu'est-ce que vous pensez que Notre-Dame, c'est le seul monument qui détruit, fait réagir autant d'émotions, qui génère autant d'émotions et de valeurs sous-jacentes? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à Notre-Dame, selon vous?
Alors, en tant que monument, c'est vrai qu'on peut pas tellement imaginer un monument qui fasse davantage réagir dès lors qu'il est atteint par un incendie, pour les raisons qu'on a dites, la double nature de Notre-Dame, le fait qu'elle est un objet personne. Un objet personne, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé dans mes travaux de sociologie des valeurs, c'est-à-dire un objet qui est traité comme une personne, que ce soit une relique parce qu'elle porte la trace d'une personne, que ce soit un fétiche parce qu'il agit comme une personne, ou que ce soit une œuvre d'art. Bon. Donc, Notre-Dame est un objet personne et on comprend du même coup pourquoi ces émotions. Mais on peut pas s'en tenir à la dimension de monument pour comprendre ces émotions collectives. Il faut aussi prendre en compte le fait que les attributions de valeur peuvent porter sur des actes. Et lorsqu'on repense à ce qui s'est passé en janvier 2015 en France, on voit un déferlement d'émotions collectives en réaction aux attentats, à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Et là, on voit bien que la question des émotions touche non seulement des choses, mais aussi des actions, des personnes, voire des entités abstraites telles que la nation, tout simplement.
Oui, parce que Notre-Dame, c'est aussi une identité chrétienne de la France. Cette dimension-là, elle est importante ou pas dans ce sujet?
Alors, elle est importante pour certains et totalement nulle pour d'autres. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas donner un jugement global. Il y a une variété de prises de position par rapport à Notre-Dame, et c'est cette variété qu'on a essayé de décrire. Et comme l'a dit Natacha Polony, sans prendre aucune position nous-mêmes sur savoir ce qu'il faut dire ou pas dire.
Vous avez essayé Et vous avez même réussi. Merci beaucoup.
Merci.
Nathalie Hennick, je rappelle le titre de ce livre qui nous a beaucoup, beaucoup intéressé. Notre-Dame des Valeurs, retour sur une émotion patrimoniale aux presses universitaires de France. Merci Gilles, merci Natacha. On se retrouve samedi prochain à midi. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Florence Gimalac cette semaine à la préparation de l'émission. Marie Merrier pour la réalisation. Et aujourd'hui, Ludovic Asselot à la technique d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr. Et merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter.